Esprit Saint comme nous habitions. Recherchons ta vérité, que nous dilatons nos cœurs à ta présence, que nous dilatons nos cœurs à ton cœur, blessés des paiements de Jésus. Et ensemble, nous disons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, la disons les uns pour les autres. Notre Père, qui es aux cieux,
bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés pour cette soirée, ces soirées qui sont officiellement là pour préparer une consécration personnelle, familiale, paroissiale au cœur de Jésus. Un petit mot pour me présenter. Donc, comme le Père Laurent l'a dit, je suis Daniel Régent, je suis jésuite depuis 1970. J'ai commencé mon parcours à Toulouse et il se trouve que j'étais sur les 8-9 dernières années à Toulouse et je suis à Versailles maintenant depuis un an. Voilà, et j'ai été sur Toulouse particulièrement investi comme directeur national du réseau mondial de prière du pape. C'est un mot qui peut-être ne vous dit pas grand-chose. C'est la nouvelle dénomination de l'apostolat de la prière, dont le MEJ est la branche jeune. Et donc, en parlant du MEJ, effectivement, on rebranche un peu les morceaux. Voilà. C'est dans ce contexte du réseau mondial de prière du pape, on m'a demandé, on pourrait dire par hasard, de prendre cette responsabilité parce qu'il n'y avait personne pour la prendre. Et comme je me trouvais à Toulouse et que le centre est à Toulouse, eh bien, on m'a demandé de pouvoir assurer cette fonction. Et dans ce cadre-là, puisque l'apostolat de la prière est enraciné dans le cœur de Jésus, eh bien, je me suis intéressé au cœur de Jésus, qui pour moi, excuse-moi mon Dieu, était un peu un inconnu. Voilà. Et je dois reconnaître que cette rencontre avec le cœur de Jésus, avec ma très grande surprise, a transformé mon cœur de métier, si je peux dire, à savoir l'accompagnement spirituel. Ça a transformé mon oreille. Et puis, ça a transformé la manière dont je donne les exercices spirituels de Saint Ignace. Voilà. Donc, je me suis dit, alors ça c'est quand même fort, que le cœur de Jésus, alors j'avais du côté de 70 ans, vienne transformer mon cœur de métier à cet âge-là, il est vraiment fort. Voilà. Pour ce soir, je vais commencer par une introduction autour de la consécration. J'espère que la voix va tenir. Donc il y aura deux parties dans cette soirée. Une première partie, une réflexion sur qu'est-ce que c'est une consécration, à quoi est-ce que ça peut engager. Et une deuxième partie qui sera biblique avec l'itinéraire de Moïse. Voilà. C'est au fond ce que je vais proposer sur les quatre soirées qui sont prévues, un itinéraire spirituel avec des figures bibliques. Que faut-il entendre par consécration ? Au sens habituel du terme, nous entendons consécration dans le sens pour le sport, pour le cinéma, comme le couronnement d'un exploit ou le couronnement d'une carrière, c'est-à-dire une apothéose, la gloire. Il est consacré, c'est formidable. Dans ce sens-là, se consacrer serait pour nous un engagement d'être héroïque. Et à ce moment-là, nous nous trompons complètement. Il faut prendre le mot dans un autre sens. Le mot « consécration » est proche du mot « dévotion ». Alors, vous allez me dire « consécration, dévotion », quel rapport y a-t-il ? Eh bien, le mot « dévot », »,« dévoué », »,« dévouement » ont comme racine le « vœu », c'est-à-dire « désirer »,« souhaiter ». Le « vœu » et la consécration rendent une chose sacrée. On présente un vœu à Dieu. Émettre un vœu, c'est d'abord désirer. Et il y a quelque chose dans ce désir de l'ordre de l'amour. La consécration veut donc chercher à instaurer une relation fidèle, privilégiée, on pourrait dire, avec le Seigneur. Quand je suis consacré, je ne m'appartiens plus tout à fait en propre. Dans le mariage, eh bien, les époux se sont donnés les uns aux autres, ils ne s'appartiennent plus tout entiers à eux-mêmes. Et en même temps, le mariage ou une consécration religieuse sont là pour permettre à chacun de pouvoir se développer et donner le meilleur de lui-même. C'est une aventure, bien sûr. Saint Ignace nous dit que dans cette relation, l'amant donne à l'aimé une partie de son bien ou de son pouvoir, et de même en retour, l'aimé donne à l'amant ce qu'il a. Chacun donne, offre ce qu'il a. La consécration, pour ne pas mourir, doit se renouveler tous les jours, doit s'inventer tous les jours, inventer des gestes concrets. Voilà. Et quand on sent qu'il y a une routine qui s'est installée, eh bien parfois, il faut la bousculer un peu. La consécration en tant que célébration n'est pas présente dans l'encyclique du pape. Il n'en parle pas. Mais le pape nous aide à entrer dans une relation personnelle avec le Christ et avec le cœur du Christ. Je vous ai proposé avant cette rencontre de pouvoir lire dans l'encyclique la deuxième partie qui touche davantage à la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus nous aide à voir comment lui-même a été consacré à sa mission qu'il a reçue de son Père. Voilà. Et peut-être le moment le plus central de cette consécration, ben, c'est toute sa vie, depuis l'incarnation, Nazareth, Bethléem, la grotte, la pauvreté, 30 ans de silence pour s'inculturer au monde dans lequel il était, et puis 3 ans de vie apostolique, et peut-être que la partie la plus manifeste, c'est qu'il se consacre dans l'Eucharistie, qu'il célèbre juste avant sa passion. Il se fait nourriture, agneau pascal. Arrêtons-nous sur cet événement pour prendre la mesure de ce que Jésus a fait. Tout au long de sa vie, Jésus s'est donné à la fois à sa mission et à son Père. La Trinité tout entière était désireuse de vivre cette mission. Cette mission fait partie de l'incarnation. Et le Fils vibre du désir d'accomplir cette mission. Mais en même temps, il ne fait pas de cette mission son bien propre. Ce n'est pas sa volonté propre qu'il accomplit, c'est la volonté de son Père. D'où on a pu insister dans les temps anciens en disant « le Père a envoyé son Fils », en disant « fiston, allez, je t'envoie ». Mais le fiston, si je peux me permettre de parler comme ça, de façon familière, le Fils avait formidablement envie, autant que son Père, de partir et d'accomplir cette mission. Mais vous voyez, Jésus à aucun moment dans l'Évangile ne dit « j'en fais mon affaire ». Nous, parfois, nous disons ça. « Ah, j'ai une mission, j'en fais mon affaire ». Et je mets un point d'honneur, je dirais, à la réaliser un peu tout seul ou toute seule. Jésus se donne lui-même, il se livre. Il ne fait pas simplement du bien aux autres, il donne sa personne. Et vous voyez qu'il y a une distance extraordinaire entre donner une petite pièce à la quête ou bien de se donner soi-même, même si ce sont des tâches extrêmement humbles. Avant la Passion, Jésus va ritualiser ce qu'il a été toute sa vie. Il fait une célébration. Il se consacre dans l'Eucharistie. Et ce rituel anticipe ce qui va se passer à la Passion. La Passion réalise l'Eucharistie. On ne peut pas séparer l'Eucharistie et la Passion. À qui Jésus se consacre-t-il ? À ses disciples qui représentent toute l'humanité. Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, buvez-en tous. C'est mon sang, la coupe de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Jésus se consacre à ses disciples et il se consacre à la mission qu'il a reçue de son Père. Des deux côtés. Il est consacré à son Père. Les consécrations rituelles, sacramentelles, on va dire, que nous pouvons faire, engagement, promesse, vœux, consécration, sont toutes des réponses qui sont des échos à la consécration faite par Jésus de lui-même. Si lui s'est consacré, alors moi je peux ressentir que dans une réponse amoureuse, j'ai envie de me consacrer moi aussi. Mais vous voyez, c'est simplement une réponse. Dans cette consécration, le Christ entraîne ses disciples, et du coup, nous-mêmes, infiniment loin. Les disciples, d'une part, sont perdus lors de la consécration. Saint Luc, il dit ceci, « Ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. » au moment même où Jésus consacre sa vie. Donc ils sont ailleurs, ils sont perdus. Et pour une part, ils sont à 10 000 lieues de pouvoir se dire « un jour, nous serons avec lui ». C'est tellement grand ce qu'il a fait. Et du coup, ils font l'inverse. Aller jusqu'où va Jésus, ce n'est pas possible. Mais ce sera possible après la résurrection et dans la puissance de l'Esprit-Saint. ce n'est pas avec leurs muscles qu'ils vont réussir à pouvoir s'engager. Nous-mêmes, nous ressemblons aux disciples. Ce que fait Jésus pour nous, nous dépasse infiniment. Alors, dans une consécration, je disais, chacun apporte ce qu'il est. Le Christ nous donne ce qu'il est, une merveille de cadeau. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Qu'est-ce que nous avons? Notre pauvreté, notre petitesse. Oui, pour se consacrer au cœur de Jésus, il faut avoir perçu que Jésus désire rejoindre notre cœur, qui est un vaste chantier. Notre cœur est un vaste chantier. Et Jésus désire venir à cet endroit-là, dans notre pauvreté. Et pour une part, il nous supplie, il nous dit, donne-moi ta pauvreté. Oh, ta richesse, oui, c'est très bien, tu pourras la développer. Donne-moi ta pauvreté. C'est elle qui t'embarrasse, c'est elle qui t'encombre, c'est elle qui te paralyse. Donne-la-moi, s'il te plaît. Alors tu pourras grandir en pleine croissance avec les talents que je t'ai donnés à ta naissance. Alors nous pouvons nous réjouir parce que c'est le Christ qui a commencé à se consacrer à nous. Et nous, à chaque Eucharistie, nous mangeons cette force qu'il nous donne. Et pour une part, lorsque nous recevons l'Eucharistie, il y a déjà quelque chose d'une réponse que nous donnons. Je tends les mains pour recevoir le corps du Christ, et cette manière de tendre les mains est une manière d'accepter, de me consacrer un peu au Christ. Un autre point sur la consécration. La consécration au cœur de Jésus est missionnaire. Dans Dilexit Nos, le pape François reprend un mot de Jean-Paul II où il dit « La consécration au cœur du Christ doit être envisagée dans la relation avec l'action missionnaire de l'Église. » Oui, la consécration est missionnaire. Pour une part, lorsque je me suis consacré, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je suis pour les autres. Mais pour une part, ne plus s'appartenir à soi-même, c'est une délivrance. Vous entendez bien que la consécration n'est pas un refuge sentimental pour des dévotions privées. Pas du tout. Jésus a rejoint les hommes, il les a aidés à vivre dans la perspective du royaume. Il les conduit au royaume. Et alors nous, notre amour pour Jésus ne prendrait pas le chemin que lui-même a pris? Ah non, c'est pas possible. Donc la consécration a une dimension essentiellement missionnaire. C'est une ouverture. Alors, consécration de la paroisse, de la famille ou consécration individuelle? La paroisse, c'est une petite église. Voilà, vous en êtes un bel exemple ici. Ce n'est pas le curé ou le curé avec le AP qui s'engage. C'est la paroisse qui va dire au curé « Ah oui, c'est bien, faisons cela ». La décision finale, bien sûr, appartient au curé. Pour la famille, il faut en parler en famille. Et la décision revient aux parents. Venant d'une joie partagée, elle pourra aider les plus timides à entrer dans cette dynamique. Ceux qui se consacrent montrent, ouvrent un chemin pour d'autres qui sont plus timides et qui pourront se laisser progressivement apprivoiser et entraîner dans cette perspective. Pour les enfants, si elle est perçue comme l'obligation d'être bien sage, alors c'est niet, hein. Si elle est perçue comme un encouragement, oui, bien sûr. Il faut que ce soit pour eux une perspective dynamique, une perspective de croissance. Concrètement, à quoi s'engage celui qui se consacre? Eh bien, ce n'est pas d'abord à faire des dévotions et ceci et cela. Celui qui se consacre, il s'engage à avoir une relation en vérité avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Une sorte d'ouverture à Dieu, à soi, aux autres. Et celui qui fait cela, eh bien, il inventera au fur et à mesure la manière, les formes concrètes que ça peut prendre en fonction, chacun, de sa situation, de son état, de sa profession, de son rythme de vie, etc. Je rassemble cette première partie. La consécration est une relation fidèle. Le modèle, c'est Jésus dans son incarnation. Donc à chaque fois que je suis un peu perdu, je reviens vers Jésus et son incarnation. La consécration, c'est un échange mutuel, une relation mutuelle. Chacun apporte ce qu'il a. Le Christ apporte sa fidélité, son amour, qui sont immenses. Et moi, j'apporte ma bonne volonté, ma pauvreté et mes résistances. Voilà. Vous voyez, les dons, je dirais, chacun apporte ce qu'il peut. Et du coup, les dons, ils s'équilibrent. Même si le don du Christ est considérable et le mien, il est misérable. Ça n'a pas d'importance. Jésus entre dans le chantier de l'humanité. Il ne fait pas rêver à un monde sans épreuve. Il ne nous promet pas un monde sans épreuve. Il appelle des disciples à prendre son chemin. Et le chemin de Jésus n'est pas tous les jours un chemin facile. Les signes qu'il accomplit, les guérisons, la multiplication des pains, éveillent en chacun le goût du royaume. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie. Quelques mots sur la consécration. J'en arrive à la partie biblique avec la vocation de Moïse. Je vais vous la raconter. Donc, dans le livre de l'Exode, c'est au début de la Bible, Exode chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, verset 18. Donc les Israélites sont descendus en Égypte parce qu'il y avait la famine chez eux et ils se sont installés finalement. Et lorsqu'un nouveau roi accède au pouvoir, il a peur de la croissance vigoureuse de ce peuple et il le met en servitude jusqu'à donner l'ordre de tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Donc Moïse, qui naît à ce moment-là, aurait dû y passer lui aussi. Mais voilà, sa mère le cache en trouvant qu'il est beau et elle le met dans une corbeille et elle le met sur le Nil, fermer la corbeille, voilà. Et la sœur de l'enfant vient se poster à côté, là, pour regarder. Deux femmes. La fille de Pharaon arrive de l'autre côté, et elle, pour se baigner, elle entend des cris, elle va dire à sa servante, va chercher. Et elle découvre que Elle dit, c'est un petit hébreu. Elle sait bien que son père a donné l'ordre que tous les enfants mâles soient tués. Et pleine d'audace, la sœur de l'enfant vient dire à la fille de Pharaon, veux-tu que je te trouve une nourrice ? Ah ben oui, c'est une bonne idée. Et voilà que la fille va chercher la mère de l'enfant et la mère de l'enfant va être payée pour nourrir son enfant. Voilà, l'audace de ces femmes qui transgressent comme ça les ordres de Pharaon. Ayant grandi, donc Moïse a un peu la double nationalité, égyptien et hébreu, il visite ses frères. Il voit un égyptien frapper un hébreu. Il regarde à droite, il regarde à gauche, personne. Il tue l'égyptien, il l'enfouit dans le sable, ni vu ni connu. Le lendemain, il revient et il voit deux hébreux, ce coup-là, se disputer. Et il intervient à nouveau et un des deux dit à Moïse, « Dis donc, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Oh là là, ça se sait. La nouvelle s'est répandue et Pharaon va vouloir me tuer. Donc courage, fuyons. Et Moïse prend la fuite. Sur le chemin de sa fuite, il rencontre des bergères au bord d'un puits qui viennent abreuver leurs troupeaux et des bergers interviennent et importunent les femmes. Moïse, il intervient, il met de l'ordre dans tout ça et il aide les bergères à abreuver les troupeaux. Et puis les filles rentrent le soir à la maison, beaucoup plus tôt que d'habitude, et leur père lui dit, bah, dites donc, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? Ah ben, il y a un Égyptien qui nous a aidés, c'était très bien. Quoi ? Il vous a aidé et vous l'avez laissé là-bas ? Allez le chercher. Voilà. Et c'est comme ça que Moïse va se marier avec une des filles de ce monsieur, et voilà, il refait sa vie, en quelque sorte. Et il devient responsable du troupeau. Il fait bien son boulot, il part pour nourrir son troupeau au-delà de l'Horeb, au-delà de la montagne sur l'Horeb. Voilà. Et là, il découvre un feu qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il dit, c'est curieux quand même, je vais m'approcher, je vais regarder. Et là, l'ange l'appelle du milieu du feu et lui dit, Moïse, Moïse, enlève tes chaussures, le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Et puis Dieu lui dit, dis Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis quand même embêté. Ben, je t'envoie pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Ah. Moïse a fui pour éviter de mourir. Donc, ce que Dieu lui demande, c'est énorme. Mais quand Dieu a appelé Moïse, celui-ci a répondu, « Me voici ». Donc Moïse est un « me voici », un homme qui a du courage. Nous comprenons que Moïse a deux grandes qualités. C'est un homme disponible et qui a le goût de la justice. Et Dieu l'appelle exactement à l'endroit de ses qualités. Et Moïse lui dit, « Mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ? Qui suis-je ? » Dieu lui dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » C'est une réponse étonnante qui ne répond pas tout à fait à la question de Moïse. On va voir après combien cette réponse de Dieu ouvre des perspectives absolument étonnantes. Et Moïse reprend, il dit, ben d'accord, je vais y aller, mais ils vont me demander, mais quel est son nom? Et Dieu répond en disant, je suis celui qui suis. C'est une réponse qui est vraiment mystérieuse. Et Moïse, on sent, il n'est pas tout à fait convaincu. Et il dit à Dieu, mais ils vont jamais me croire. Ça ne tient pas debout ton histoire. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Jette-le. Le bâton devient serpent. Reprends-le par la queue. Hop, le serpent redevient bâton. Mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, il la retire. Elle est pleine de lèpre. Remets-la. Il la retire, elle est blanche. Parfaite. Bon, et si ça ne suffit pas, eh ben tu prendras de l'eau du fleuve, tu la jetteras, et l'eau du fleuve deviendra du sang. Moïse n'est quand même pas encore convaincu. Jusque-là, il donnait l'impression qu'il était d'accord pour y aller. Mais il y avait des petites difficultés, donc il soulevait les petites difficultés. Là, il est en train de changer complètement, il bascule, et il dit à Dieu, mais tu sais, je fouille depuis ma jeunesse, tu fais une erreur de casting, tu peux pas envoyer un homme qui bafouille auprès de Pharaon, c'est pas possible. Et Dieu lui dit, mais qui a donné une langue? Qui a donné une bouche? C'est moi. Moïse sent que ça tourne mal. Hein. Et finalement, il dit à Dieu, je t'en prie, mon Seigneur, envoie qui tu voudras. En bande dessinée d'aujourd'hui, on écrirait un petit peu autre chose, mais on comprend parfaitement ce que ça veut dire. Autrement dit, Moïse dit à Dieu, c'est non parce que c'est non. Il a bien vu que Dieu allait à tous les coups répondre à ses objections et que ça ne servait à rien de donner des objections. Et donc là, d'une façon absolument radicale, il dit, c'est non. Tu as entendu? C'est non. Dieu se fâche un peu et il dit, tiens, il y a Aaron qui vient. Oh, il va se réjouir de te voir. Eh bien, écoute, il va être ta bouche et toi, tu vas lui mettre les idées dans sa tête. Comme ça, lui, il pourra parler à Pharaon et puis toi, tu feras ta mission. Et l'entretien avec Dieu se termine de cette manière. On pourrait dire en queue de poisson. Chacun a été jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire. Que se passe-t-il alors? La ligne suivante, le récit nous dit que Moïse va voir son beau-père et il lui demande la permission d'aller en Égypte pour voir où en sont ses frères. Il lui demande la permission. Et son beau-père lui dit, vas-y, va en paix. Le beau-père, il perd son chef de troupeau. Hein. Mais mystérieusement, le beau-père est d'accord. Et là, on peut sentir que ce que Dieu peut nous dire d'en haut directement, eh bien, c'est confirmé humainement par le beau-père. Que s'est-il donc passé dans le cœur de Moïse? Il vient de dire non d'une façon absolument radicale et il fait oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Eh bien, le récit ne le dit pas. C'est un secret. On pourrait dire que c'est le secret de chacun. Comment Dieu travaille au fond de nos cœurs. Au fond, dans cette rencontre avec Dieu, Dieu a permis à Moïse d'aller jusqu'au bout du bout du bout, de ce qu'il voulait absolument pas dire. Parce que d'un côté, il a dit « me voici », donc on voit que Moïse a une belle image de lui-même, et voilà que la rencontre avec Dieu l'amène à dire exactement le contraire, « envoie qui tu voudras ». Et à l'intérieur de nous-mêmes, nous portons pour une part, tous, toute cette contradiction, un désir de dire oui et de bien réaliser sa vie, et une trouille de la mort, parce que si Moïse dit oui, eh ben il risque sa vie, pas moins. Et il y a en chacun de nous, je dirais, ces deux choses-là. Ça désire profondément, et il y a une trouille pas possible qui nous fait dire « Ah non, pas jusque-là quand même, c'est pas possible. » La rencontre avec Dieu nous réjouit profondément et nous panique. Parce que c'est trop grand pour nous. C'est au-delà de nos forces. C'est pas possible. Et alors là, nous pouvons retrouver deux choses du récit. La première chose, c'est le feu qui ne se consume pas. Le feu de Dieu n'a pas de cendre. Le feu de Dieu ne nous donne pas de goût de cendre dans la bouche. La joie qu'il nous donne est pure et simple. Voilà ce que j'entends dans ce feu qui ne se consume pas. Lorsque nous sommes pris par des feux de désir intérieur, le lendemain matin, nous avons la gueule de bois, et là, il y a des cendres. Et nous le voyons bien. Le feu de Dieu n'a pas de cendre. Et ça, pour nous, c'est un signe qui ne trompe pas de la présence de Dieu. Et puis, la deuxième chose, je reviens sur ce « je serai avec toi ». Moïse dit « qui suis-je ? » ?»« Qui suis-je ? » Ça, c'est pas possible. « Qui suis-je ? » ?»« Je suis rien, moi. » Ne t'occupe pas de savoir qui tu es, d'aller voir les psychologues et tous ces machins-là, de la croissance humaine et tout, et de développement humain, machin. Je serai avec toi. Je serai avec toi, ça signifie tu peux compter sur moi. N'aie pas peur de toi, compte sur moi. Vous voyez, où est-ce que je peux m'appuyer ? Je m'appuie sur moi et ma sécurité et mes valeurs et mes certitudes. Ou bien je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit « Tu peux compter sur moi ». Et nous sommes tous, je dirais, dans ce transfert, dans cette hésitation de chercher à pouvoir compter sur soi pour être solide et dans l'hésitation de « Mais si je comptais sur Dieu, là ce serait solide ». Et Moïse, lorsqu'il va faire passer le peuple, il va faire traverser la mer au peuple, le peuple va l'engueuler en disant « Assez malin, tu nous as amenés ici devant le fleuve et on va mourir ». Et Moïse peut dire tranquillement « Vous inquiétez pas, vous verrez ce que Dieu va faire aujourd'hui pour vous sauver ». Pourquoi il peut dire ça ? Ben parce qu'il a déjà fait l'expérience. Il a fait l'expérience dans le buisson ardent qu'il peut compter sur la parole de Dieu. Ce n'est plus sur lui qu'il compte, c'est sur la puissance de Dieu en lui. Si je résume le chemin que nous avons fait, le Seigneur, à notre naissance, nous a donné des capacités à tous et à chacun. Ces capacités particulières butent sur des obstacles, des peurs, des échecs, des blessures, que souvent, ultimement, nous reprochons à Dieu. Pourquoi je suis timide comme ça? Pourquoi je suis maladroit? Pourquoi mes limites? Pourquoi ces blessures? Et tu n'es pas intervenu pour les empêcher. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Le péché n'est pas d'abord dans ces traces qui nous pénalisent. Le péché, c'est de ne pas croire que Dieu reste là pour nous aider. Moïse, dans un premier temps, quand il entend « Je serai avec toi », il n'y croit pas. Il est soucieux de lui-même. Voilà. Le péché, c'est de ne pas croire à la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Alors, ça prend des formes humaines diverses, bien sûr. L'important pour nous, c'est de prendre la route d'une manière semblable à celle de Moïse. Alors, le point redoutable pour nous, c'est de pouvoir découvrir que caché au fond de nous, nous n'avons pas envie de dire oui. Nous avons un formidable envie de dire oui, et nous n'avons pas envie de le faire. Et en nous, il y a un combat, une bagarre. Et lorsque Dieu met le refus en lumière dans le cœur de Moïse, le refus fond comme de la neige au soleil. Et ça fait oui. Voilà. Mais lorsque nous sommes blessés, nous avons envie de nous protéger. Ah non, ne touche pas par là, c'est fragile. Mais Dieu dit, mais je vais venir et puis je vais guérir cette blessure. Voilà. Dieu veut venir guérir cette blessure et il nous dit, je serai avec toi. Voilà pour l'intervention que je voulais faire ce soir. Nous avons, sur la feuille qui vous a été distribuée, il y a des questions. D'abord pour une réflexion personnelle. D'abord, sur la première partie, en quoi est-ce que l'itinéraire, la vie consacrée de Jésus m'éclaire sur la démarche de consécration? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont éclairées pour moi au niveau de la consécration? Peut-être simplifiées aussi. Quelle réticence je peux repérer en moi par rapport à cette démarche de consécration? Quels obstacles se lèvent pour moi? Et puis, sur l'itinéraire de Moïse, d'abord, quelles qualités naturelles le Seigneur a mis en moi? Voilà, est-ce que je suis ouvert aux autres? Est-ce que je suis musicien? Est-ce que je suis scientifique? Est-ce que je suis soignant? Est-ce que je suis habile de mes mains? Quelles qualités le Seigneur a mises en moi? Et puis, dans ma vie, comment je peux repérer le combat entre le désir d'ouverture, le désir de me confier à Dieu et le travail du refus. le désir d'ouverture et le travail du refus. Et est-ce que je vois dans ma vie des indices positifs que le Seigneur travaille et qu'il travaille bien pour me mettre progressivement en confiance? Voilà. Il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur les difficultés. Oui, mais est-ce que le Seigneur travaille pour que je puisse, je dirais, être délivré de ces résistances? Alors, ne répondez pas à toutes les questions. Il y a environ une petite dizaine de minutes de réflexion personnelle. Et puis ensuite, on prendra par quatre un échange, soit sur ce que vous avez entendu, soit sur les échos personnels que vous avez pris ce soir. Voilà, donc on prend maintenant le temps personnel. Voilà, nous allons passer à l'étape suivante, par groupe de quatre. Je dirais un échange entre vous, soit pour préparer des questions. Vous avez un quart d'heure, ce sera largement assez. Un quart d'heure pour pouvoir formuler des questions et échanger entre vous de ce qui a pu vous toucher, rejoindre dans ce que vous avez entendu ce soir. Voilà. Alors pour former des petits groupes de quatre, il y a les côtés de l'église qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de rester sur place, mais il y a d'abord, j'ai trois papiers ici autour du baptême. Et donc on entend qu'il y a des questions autour des sacrements. Ne sommes-nous pas déjà consacrés au Christ par notre baptême? Alors, qu'ajoute cette démarche? Voilà. Alors, deux aspects dans la question. Oui, le baptême nous consacre déjà à Dieu. L'Eucharistie nous consacre. Et donc, il y a tout un tas de sacrements, je dirais, qui sont là. Et dans la perspective de cette relation personnelle au Christ, les sacrements sont suffisants. Il n'y a pas besoin de quelque chose de plus. Et ce que j'entends dans un certain nombre de papiers, c'est « mais cette consécration au cœur de Jésus, est-ce que ça ne va pas nous encombrer d'une pratique ou d'une chose supplémentaire ?» Et que, on en a déjà pas mal comme ça. Donc, ça suffit. On ne va pas rajouter un truc de plus. Et vous avez raison. Si c'est pour se mettre une chose de plus sur le dos, voilà. Pas la peine. Alors, il y a des choses que je vais dire, que je dirai sans doute dans la prochaine et dans les séances suivantes, parce qu'on ne peut pas tout dire en une fois. Pour moi, ce que je repère dans le Christ, le cœur de Jésus. D'abord, vous avez vu comment, dans cette soirée, je n'ai pas parlé du cœur de Jésus. J'ai parlé de nous, de mon cœur. J'ai parlé de la manière dont le Seigneur vient me toucher, comme s'il m'envoyait une flèche. Et il m'envoie une flèche à l'endroit où je suis partagé entre l'envie de dire oui et l'envie de dire non. Là, il vient toucher à un endroit difficile que je n'ai pas envie trop de déblayer. Le cœur de Jésus, le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, c'est le centre d'abord. Et Jésus, il sait tirer des flèches. Et il nous tire droit dans le cœur. Il nous tire à l'intime de l'intime. Il vise exactement là où il devait tirer. Là où ça fait mal, là où ça me dérange, là où ça me bouscule. Oh, terrible. Et à l'inverse, nous, lorsqu'on parle du cœur de Jésus, c'est pour nous montrer le cœur de la cible. Il faut aller au cœur de la cible. Si nous visons un peu à côté, ben c'est à côté. Mais si nous visons au cœur de la cible, alors là, j'ai gagné le gros lot. Voilà. Je crois que la dévotion au cœur de Jésus, c'est une manière à la fois de pouvoir sentir que Jésus vient nous toucher au cœur et qu'il nous invite à regarder exactement dans le bon axe le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est l'Évangile. Le cœur de Jésus, c'est la Bible. Le cœur de Jésus, c'est la croix aussi. Voilà. Allez au cœur. Alors, il n'y a pas besoin de quelque chose de supplémentaire. Le baptême, l'Eucharistie, nous aident à aller au cœur. Mais j'avoue que pour moi, d'avoir découvert le cœur de Jésus a transformé bien des choses en moi et me donne des images, du goût, je dirais, pour aller encore plus loin. Voilà. C'est un chemin pour aller plus loin. Mais si ça doit encombrer quelque chose, ah non. Pour moi, cet encombrement, je dirais, a simplifié. Je crois que la relation au cœur de Jésus doit unifier et simplifier. Le baptême, l'Eucharistie, le pardon, la confirmation, tout ça, ce sont des manières, ce sont des rites différents pour nous aider à aller au cœur et au centre. Voilà. Dans la prochaine rencontre, je parlerai, je développerai cette idée que je suis en train de développer. Hein, comment le cœur de Jésus, c'est le cœur de la cible. Il ne faut pas rater le cœur de la cible. Comment ne pas être démobilisé ou paralysé par la disproportion entre ce que le Christ nous donne et ce que nous lui offrons, c'est-à-dire nos pauvretés. Quel truc peut nous permettre d'oser l'abandon, s'abandonner à la parole de Dieu, l'abandon nécessaire pour une consécration réelle ? Alors, comment ne pas être en partie démobilisé ou paralysé du décalage entre moi, ce que je peux offrir, et ce que Dieu me donne dans son immense bonté. Oui, mais je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je ne sais pas bien quoi répondre à cette question. Je crois que dans le mystère de l'amour, si je prends l'image d'un couple, dans un couple, on va découvrir qu'il y a des décalages considérables entre l'un et l'autre. Mais il y en a un qui a senti que l'autre lui apportait pour lui des choses absolument essentielles. Essentielles. Et l'autre peut penser la même chose. Je crois que le Christ n'est jamais aussi heureux que lorsque nous lui apportons nos pauvretés. Comme s'il en avait besoin. Et à ce moment-là, je dirais, si nous ne sommes pas paralysés par le fait de lui apporter simplement nos pauvretés, nos résistances, nos refus, parce qu'il y en a aussi. Le Christ est heureux lorsque nous lui apportons cela. C'est un mystère. Là, il sent que quelque chose s'accomplit vraiment. La distance entre nous se réduit lorsque je peux consentir à recevoir de lui la miséricorde, le pardon, la joie de vivre. Enfin, c'est fabuleux. Et que moi, en retour, je lui offre mes refus. Comment je peux sentir que, encore aujourd'hui, je vais passer, par exemple, je fais un mot croisé. Et mon bon ange, il me tape sur l'épaule et il me dit, dis donc, tu ferais bien d'arrêter le mot croisé, hein, t'as du boulot. Oh, fous-moi la paix, hein, puis je continue mon mot croisé. Je suis un bandit. Et mystérieusement, je dirais, je suis indécrottable pour une part, en bonne partie. Et je sens que, mystérieusement, le Christ me dit, donne-moi ça. Et il ne me dit pas d'abord, ah écoute, s'il te plaît, change. Après ça, je te regarderai. Lorsque le père du prodigue reçoit son fils qui revient, il ne lui dit pas, tu vas prendre une douche et ensuite je te mettrai la robe de noces. Il lui met la robe de noces sur ses haillons et sur sa mauvaise odeur. Voilà. Et il est absolument aux anges parce que son fils est revenu. Et là, il y a un mystère. Nous aimerions être un peu bien propres, un peu plus corrects par rapport à Dieu. Mais ça, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil qui fait un obstacle, finalement, qui nous paralyse vis-à-vis de Dieu. Dieu nous accueille comme nous sommes. Et alors, du coup, comme nous sommes accueillis tranquillement par lui, et il ne nous juge pas, alors du coup, ça me donne de la force. Je dirais de la joie et de la force pour dire, bon, quand même, il faut que je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc effectivement, je vais faire des efforts pour m'amender. Mais c'est pas le Christ qui me demande de faire des efforts pour m'amender. C'est pas le Christ qui me demande. Enfin, si, il me dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Mais quelle est la perfection du Père? La perfection du Père, c'est de se réjouir de voir qu'un enfant revient. Il ne demande pas d'être parfait. La perfection du Père, c'est de se réjouir. Eh bien, soyez parfait. C'est-à-dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous des cadeaux de Dieu. Réjouissez-vous de sa bonté et de sa miséricorde pour vous. C'est ça la perfection que Dieu vous demande. C'est pas d'être parfait selon l'image que vous vous faites de la perfection. Là, on peut courir longtemps. Et du côté de la culpabilité, qu'est-ce que ça va travailler? Si nous cherchons à être parfaits selon l'image que nous nous faisons de la perfection, bonjour la culpabilité. Ou une certaine arrogance, ou je ne sais pas quoi. Mais si nous nous réjouissons que le Christ vienne à ma rencontre, pauvre que je suis, comme je suis, ah oui, alors là, quel bonheur. Voilà. Quel truc peut nous permettre d'oser l'abandon? Eh bien, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Il y a simplement, je ressens en moi que j'ai des résistances. Seigneur, voilà, tu vois, je te résiste. C'est ça que j'ai à t'offrir aujourd'hui. C'est pauvre, hein, mais je te le donne de bon cœur. C'est pas un truc. C'est le travail en vous qui s'est fait ce soir. C'est ça qui va vous réjouir. C'est pas parce que vous êtes tout à coup vous êtes meilleur. Non, vous êtes aussi médiocre que ce que vous étiez en arrivant. Excusez-moi de vous dire ça. Mais je peux dire la même chose pour moi. Hein? Mais s'il y a de la joie, alors ça change tout. Voilà. S'il y a de la joie, ça change tout. Et vous voyez, le cœur de Jésus nous aide à bien viser. Si nous cherchons une perfection qui est la nôtre, nous visons à côté. Et si nous visons le cœur de Jésus, ah oui, je visais à côté, imbécile que je suis. Voilà. Le cœur de Jésus nous aide à viser juste, au centre. Il nous met dans l'axe. Et en étant dans l'axe, il va nous toucher aussi à l'intime de nous-mêmes. Il va venir travailler. C'est réciproque. Hein? Il n'y a pas de dévotion au cœur de Jésus qui ne nous touche pas à l'intime de nous-mêmes, qui vienne nous percuter, je dirais. Dans 3 semaines, voilà, on prendra un texte d'évangile, c'est la même chose. Quelqu'un va être percuté par la rencontre de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être consacré? Pourquoi parler de consécration de Jésus? Je ne sais pas si Jésus a besoin d'être consacré, puisqu'il est parfait. Mais en prenant, en devenant humain, nous avons, nous humains, besoin de signes concrets. Voilà. Nous avons besoin de gestes. Eh bien, la consécration au cœur de Jésus, c'est un geste. Et Jésus, eh bien, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est un geste. Il a accepté. C'est humain. Il n'en avait pas besoin. Mais en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, les spirituels disent « Il a purifié l'eau de nos baptêmes ». Voilà. Et du coup, lorsque nous nous plongeons dans le baptême, nous laissons nos péchés et le Christ purifie l'eau de nos baptêmes. Voilà. Donc, il s'est consacré. Pourquoi parlait-on de consécration au cœur de Jésus et pas à Jésus qui nous dévoile son cœur? Voilà. Je reprendrai ça certainement dans les conférences qui vont venir après. Pourquoi est-ce qu'on parle du cœur de Jésus et non pas simplement de Jésus? Alors, quand je pose la question à des enfants, la réponse, elle fuse. Ben, Jésus, on le voit à l'extérieur, et puis le cœur, c'est dedans. Voilà. On peut difficilement dire que Jésus, c'est le cœur des évangiles ou le cœur de la Bible. Mais dire que Jésus, le cœur de Jésus, c'est le cœur de la Bible, ah oui, ça, c'est des images qui fonctionnent. Mais Jésus n'est pas le cœur de la Bible. Mais Jésus est le cœur vivant, palpitant de la Bible. Autrement dit, lorsque nous lisons un passage biblique, c'est lui qu'il faut voir. Il faut aller au cœur de la cible. Et alors, la Bible prend tout son sens avec le mystère du cœur de Jésus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent la bouche? Il y en a une à ma droite. Comment être à l'écoute des signes de Dieu que Dieu nous donne pour notre conversion, pour ma conversion? Comment s'abandonner? Comment intégrer concrètement la consécration dans sa vie? Je note surtout ici les mots concrètement, comment faire. Vous voyez que dans une certaine mesure, ces comment qui disent une inquiétude, je voudrais savoir faire. Et moi, je ne sais pas faire. Mais je suis touché. Et si je me demande comment, il y a comme une recherche d'objectivité où je pourrais saisir et je pourrais dire, ça y est, j'ai grandi. Ça y est, ce coup-là, je le tiens bien. Je tiens rien du tout. Mais je sais que je suis aimé. Donc, au lieu de parler en termes de comment, je dirais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ce soir? Si vous pouvez dire oui, même si vous ne savez pas quoi, c'est gagné. Il n'y a plus de comment. Il y a, oh ben c'est bien. Il y a de la joie. Vous voyez, nous risquons d'être toujours dans l'efficacité, l'opérationnalité. Je vais réussir. Oh là là, oui. À 77 ans, moi, je commence à être un petit peu usé de me dire je vais réussir à quelque chose. Mais Dieu a fait du beau travail. Ah oui, alors là, je peux dire oui. Et il fait ce même travail en nous. Mais si nous sommes arc-boutés sur l'efficacité de moi, de ma conversion, oh non, je ne regarde pas au bon endroit. Ce n'est pas le bon axe. Pas tout à fait droit. C'est lui, et lui seul, et il me réjouit. Voilà. On va peut-être en rester là comme ça pour ce soir.
Merci beaucoup.
C'est prendre simplement la prière d'offrande.
Oui. Deux petites annonces.
Deux petites annonces. Ah oui. Alors, pour approfondir la soirée, je vous donne dans Dilexitnos deux endroits que vous pouvez lire, les numéros 92 à 96. C'est un peu, le pape fait un parcours dans l'Ancien Testament jusqu'à la croix de Jésus. 92, 96. Et puis dans la cinquième partie, amour pour amour, vous voyez, c'est rendre amour pour amour, les numéros 205 à 216. 205, 216. Ces numéros-là nous invitent à vivre un amour missionnaire. Voilà, c'est pour fortifier un peu ce qu'on a dit ce soir. Ça, c'est pour reprendre ce qu'on a dit ce soir. Et pour préparer la prochaine rencontre, alors, je prendrai la première partie de Dilexitnos, le cœur de Jésus dans mon cœur humain, avant la soirée, lire si possible les paragraphes 1 à 30 de Dilexitnos. Je vous avais proposé la deuxième partie pour commencer avec Jésus, c'est plus facile. La prochaine rencontre, nous prendrons la première partie de 1 à 30, où le pape reprend l'importance par rapport à l'intelligence du cœur. La raison est le cœur. Et il dit, comme il est important dans notre monde d'aujourd'hui, de repasser par le cœur.
Et les numéros préparés la prochaine fois, qui est le 18 décembre, sont sur le traversé.
En gros, avec les quatre séances, je vous proposerai de lire l'ensemble de Dilexitnos. Mais pas dans l'ordre.
On va finir avec un petit mot. N'hésitez pas, que ce soit la paroisse, vos amis, vos voisins, envoyez-les. dit aussi que j'ai oublié d'ouvrir le portail, pour moi, c'est une erreur. Je suis bien désolé. Mais si aussi des personnes qui ne peuvent pas oser passer, si vous pensez qu'elles sont plus âgées, qui ne peuvent pas oser passer le soir, et que vous entendez cela, n'hésitez pas, on va essayer d'organiser un petit covoiturage. Donc n'hésitez pas à le dire au secrétariat, si possible, avec les coordonnées. Ça vient d'être dit pour préparer les réunions suivantes dans le tract, il n'y a pas que cela, mais il y a entre autres les numéros de l'église express que vous pouvez encore changer. Et là, nous allons prier, il y a aussi construit le lien à partir de l'amitié à la fin de notre soirée de ce soir. Et j'ai une grosse tâche suivante, c'est un parcours, c'est vraiment un parcours sur les quatre sessions.
Père, très bon, en ce jour.